Intersection.
Intersectionnel.
La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
T'es garde des Sceaux et tu lances des enquêtes sur des juges qui t'ont énervé quand t'étais avocat. La Cour de justice de la République, aka tes potes de l'Assemblée, te tapotent gentiment la main, prennent l'air fâché de la maîtresse qui surveille les petits comme Braun Pivet sait si bien le faire, et tu peux repartir en classe avec tes camarades. T'es ministre délégué à l'enseignement et à la formation professionnelle, et tes gamins réclament un goûter, pas de problème, ton chauffeur est là, il coordonne à tes marmots leurs 4 heures, et si tes parents sont à Paris, ils peuvent même faire un sightseeing car dans Paris. T'es sénateur de la majorité, il y a une députée qui te plaît bien, pas de problème, tu l'invites et tu verses un peu d'extasie dans son verre. Quoi, on me dit dans l'oreillette que le gouvernement a déclaré la guerre à la drogue. Non, c'est un nom de code ça. Ça veut dire la guerre aux pauvres. Un gamin qui fume du shit dans le 9-3, c'est un parasite qui refuse de travailler et qui vit sur le dos de la société, peut-être même qui est travaillé par l'islamisme, alors que le cadre qui sniffe proprement dans les toilettes, c'est l'employé de la semaine qui tient la cadence. C'est pour ça qu'un député de la majorité qui consomme de la drogue devant son fils, ça finit en classement sans suite. Et un mec qui bosse au ministère du Travail peut consommer tranquillement de la drogue, se faire livrer à côté du ministère et péter des piles quand il est en manque. Ça a fini par déranger le personnel quand même, on a demandé aux gens qui parlaient de se taire. Bon, on l'a quand même aussi viré du ministère du Travail et maintenant il est à la direction générale de la police nationale. Le bullshitisme en acte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le grand mot de notre classe politique quand on descend dans la rue par exemple, c'est « j'assume », façon polie de dire « je vous emmerde » ou « rien à foutre ». J'ai dit ce vote m'oblige ? Ah ouais, ben tant pis, je vous colle quand même la préférence nationale dans la loi. C'est mon petit cadeau de Noël. J'ai pas voulu faire tout l'édito sur la loi immigration parce que c'est déprimant et que je me sens trop Adèle Haenel en ce moment. La honte.
La honte. Salut Bertrand.
Salut Tiffane.
Merci pour ton édito.
Ouais.
La honte, c'est la bonne technique.
Bah la honte et la fatigue, parce là on sait plus où donner de la tête. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on est sur qu'on est dans la rue tous les samedis après-midi. Ça fait le dernier bilan que j'ai en tête de Gaza, c'est 20 000, mais je crois qu'on a toutes les semaines il faut réévaluer. C'est quand même quand on y réfléchit, c'est quand même super déprimant cette histoire. On a parlé de de la loi immigration, on voit comment ça se finit. Et quand on est militant, il y a quand même un moment où on se dit, quand on nous tape comme ça sur la tête, on va dans la rue, il y a la réforme des retraites, quand même ça passe. Et puis ça continue, et puis ça va continuer. Et puis Macron, il l'a dit, il faut continuer de réformer. Et il y a un moment où on est juste fatigué, en fait. On voudrait que le disque tourne dans l'autre sens.
Ouais, puis là, il y a la fatigue de fin d'année aussi. Notre émission, on a préparé sans invité aujourd'hui parce qu'on est aussi, nous, fatigués de la situation et de militer, etc. Et c'est aussi un moment où, la fin d'année, on peut se saisir pour se ressourcer.
Ouais.
Et pour reprendre des outils, des armes militantes, et pour revenir en janvier, parce qu'en fait, la loi immigration, il y a moyen que ce soit pas terminé, mais que ce soit le début d'une mobilisation de masse.
Ouais,
en tout cas, on peut l'espérer, quoi.
On est là et on va rester là, mais on avait l'idée de donner un peu de faire des petits cadeaux, là, comme ça, en fin d'année. Et puis, moi, j'ai trouvé 2 pépites que j'ai particulièrement aimées, un podcast et une série. Et donc, le podcast, je trouve qu'il est vraiment bien parce qu'il nous permet de nous connecter à des choses assez positives et à des choses qui sont expérimentées, au possible, qui sont en train d'être vécues là aujourd'hui. Et donc ce podcast, c'est quoi l'amour maîtresse de, j'ai oublié son nom, mais je le retrouverai après qu'on ait entendu l'extrait, et on va l'écouter tout de suite.
On a affaire à un des plus gros prédateurs sexuels que la...
Non, ça c'est Cendre.
Petit couac.
Est-ce que vous connaissez le nom des parties intimes de votre corps?
Ah oui.
La partie là, le zizi.
Il y a le sexe, le zizi et les fesses.
Et il y a aussi les seins, mais c'est que pour les femmes. Il n'y a pas des hommes qui ont des seins. Enfin, je sais pas.
Et pour les hommes, ça s'appelle les tétons.
Non. Non, mais il y a aussi la zizette. Ils ont du zizi, mais si c'est une fille, il y a zizette.
Non. Moi, je voulais dire une autre chose, c'était les testicules aussi.
Ah, oui, je voulais dire les testicules.
Non, c'est le petit sac qui est devant ton zizi.
Est-ce que quelqu'un connaît le vrai nom du zizi?
La zigounette.
Ça s'appelle le pénis.
Oh, le pénis.
Le tennis, le phénix.
C'est un phénix.
Si, pour les garçons, c'est le pénis. Pour les filles, c'est la...
Pénis.
Phénix. La vernus.
La vulve.
La ville.
Non.
La vulve. La vulve.
C'est dur à dire.
La vulve.
C'est bon.
Oui, bon, je reconnais que je suis pas hyper à l'aise d'entendre mes élèves dire ça. Vulve et pénis. Mais je suis aussi très fière qu'elles connaissent le vrai nom de leur partie génitale à 7 ans. Moi, j'ai dû attendre d'être adulte pour les découvrir.
Ah, bon, j'ai trompé.
J'ai trouvé une autre partie.
Il y a des filles, si tu veux, là. C'est quoi?
Bah, les pieds, on les voit jamais.
Cette année, j'enseigne en CE1 dans un quartier parisien encore assez mixte socialement. Mes élèves ont 7 ou 8 ans et elles me fatiguent beaucoup, mais je les adore.
Non mais Elliot,
la lumière s'il te plaît, Alicia.
Elliot, je sais plus quoi dire en fait.
Attends, quoi,
tu vas pas la perdre, c'est les montants.
Ce cours d'anatomie, je l'ai pas fait par hasard. C'est le résultat d'une longue réflexion. L'école, ce n'est pas un cocon hors du monde. C'est une micro-société.
Où c'est que t'as entendu ça?
C'est mon papa, parce qu'à chaque fois, dans sa voiture, il arrête pas de dire des gros mots.
Alors vas-y, qu'est-ce qu'il dit dans sa voiture?
Espèce de connasse.
Allez, bouge ta caisse, connasse!
Putain, casse-toi!
Ah, les gonzesses!
Tout ce qui arrive dehors arrive aussi à l'école. Et quand j'ai commencé à enseigner, il y a 4 ans, je l'ai vite constaté. Violence physique, réflexion sexiste, insultes homophobes ou racistes, agressions entre élèves. Tout ça, c'est très fréquent. Mais j'ai aussi fait face à leur ignorance sur tout ce qui touche à leur corps et son fonctionnement. Alors au début, je traitais au cas par cas, en prenant les élèves en privé. Ou alors, on pouvait avoir des discussions en classe. Et puis à force, je me suis dit que ce serait bien de faire quelque chose de plus construit, avec des objectifs, une progression, des ateliers, comme un cours, quoi. Un cours pour leur expliquer comment leur corps est fait, pour leur parler de relations, de consentement, pour apprendre à régler des conflits sans violence, pour les aider à comprendre les discriminations dont elles sont témoins ou victimes et qu'elles reproduisent eux-mêmes à l'école. Et puis pour les informer sur leurs droits, tout simplement.
Alors, le thème d'aujourd'hui, ça va être le consentement.
Est-ce qu'on choisit de qui on tombe amoureux?
Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de votre corps.
Qu'est-ce qu'on fait ou qu'on fait pas avec son ami?
Et tout ça, ça existe déjà. Ça s'appelle l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et jusqu'ici, je l'ignorais complètement. Mais en France, c'est un enseignement obligatoire depuis 2001. D'après la loi Aubry du 4 juillet 2001 sur la contraception et l'IVG, chaque enfant du CP à la terminale doit bénéficier de 3 séances chaque année. Mais là, je me demande ce que je peux bien raconter à des enfants de 3 à 10 ans sur le genre, les relations, la sexualité. Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Est-ce que je ne risque pas de les traumatiser ou d'en faire des obsédés sexuels? Est-ce que je ne devrais pas laisser ça aux parents? Et puis, comment transmettre quelque chose qu'on m'a jamais appris? J'ai mené ces séances dans ma classe de CE1 et j'ai tout enregistré.
Avec quelle partie du corps on fait les bébés? Est-ce que, quand on est une fille, on peut être amoureux que des garçons? Est-ce qu'il y a des garçons dans cette classe qui aiment bien mettre des robes et des jupes?
J'ai envie de savoir à quoi ressemblerait une société qui offrirait à tous ses enfants une éducation relationnelle, affective et sexuelle digne de ce nom. Qu'est-ce que ça changerait dans nos relations? Est-ce que ça pourrait les rendre moins violentes, plus égalitaires?
Ça veut dire quoi être amoureux? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est amoureux?
Est-ce que ça pourrait rendre l'amour possible?
C'est quoi l'amour, maîtresse?
Alors avant qu'on débriefe sur cet audio, on a retrouvé l'autrice.
C'est Lolita Rivet. Donc Lolita Rivet, c'est quoi l'amour maîtresse? Donc un podcast qui est disponible sur Binge Audio et aussi sur YouTube. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que elle montre tout ce qui est en train de changer et tous les possibles en fait qui sont devant nous. Elle nous montre aussi tous les gens qui sont en train de changer la société. Malgré ce qu'on a dit juste avant, malgré tout ce qui nous tombe sur la tête, et qu'en fait tout ce qui nous tombe sur la tête, ça vient aussi d'une espèce d'offensive de gens qui veulent pas que ça change, en fait, c'est ça, hein, de gens qui veulent pas que dans, enfin, ces cours d'éducation
de gens vigilants,
voilà, de parents vigilants. Mais il y a un super article de Mediapart là-dessus, hein, sur les parents d'extrême droite qui rentrent à l'école et pour qui c'est insupportable, ça, les cours, ces cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Mais ce que je trouve génial, c'est que ce podcast, il montre que ça se fait quand même, en fait. Et ça, je pense qu'en ce moment, on a besoin aussi de sentir notre force, notre pouvoir, notre capacité à changer le monde et d'être aussi connecté au monde qui change.
Ouais, moi, quand j'écoute l'extrait, là, je suis en même temps hyper admirative parce que nous, on le fait avec les moyens qu'on a, mais on le fait dans le cadre du lycée. Donc déjà, on est plusieurs collègues, on est ensemble, etc. En ce moment, on fait une séance et puis c'est des ados, ils ont plein de questions, mais en fait, ils n'ont pas ces questions. Enfin, on leur apprend pas tout, quoi. On discute, c'est génial. Mais alors là, elle le fait avec des tout petits enfants. Et quand elle dit, en fait, je suis hyper contente que mes élèves, les filles, sachent comment s'appelle leur partie génitale. En fait, c'est génial, quoi.
Ouais.
C'est vraiment génial de faire ça avec les petits, quoi. Et voilà, après, il faut mettre en avant ce genre d'initiative et le diffuser, quoi.
Voilà, c'était ma petite pépite, en fait, comme ouais. Voilà, c'est les fêtes, on va se faire des cadeaux, etc. Bah, c'est un peu mon idée d'écoute, là, enfin, mon cadeau de fin d'année, là, d'aller écouter C'est quoi l'amour maîtresse, parce que vraiment, c'est génial, c'est deux... cinq épisodes de je sais plus combien de temps, mais ça s'écoute bien et vraiment c'est chouette.
Ah mais on peut faire ça pour survivre au dîner de famille, on offre des podcasts à notre ouais. famille, des podcasts hyper, tu vois, progressistes, en leur disant c'est un cadeau écolo. Franchement c'est génial, c'est une super idée.
Ouais, on avait pensé à discuter de ça aussi parce qu'on va être tous et toutes souvent en famille, quand on n'y est pas d'ailleurs c'est pas évident parce que c'est quand même une période où on nous rappelle que la famille c'est sacré, hein, avec tout ce que ça peut avoir de compliqué. Et puis, les réunions de famille ou même les réunions d'amis, c'est aussi des moments où on est confronté à des discours qu'on n'entend pas dans les milieux militants quand on milite. On est confronté à du racisme, à du sexisme, à des LGBTI-phobies. Et puis, on est confronté aussi à ce discours « Oui, bon, ça va, écoute, on la ramène pas tout le temps. » là, c'est Noël.
Ouais. Oui. Et puis, c'est de l'humour. C'est de l'humour, ouais. Il faut rigoler.
Et puis, il est comme ça, tu sais bien. Tu vas pas changer le monde. Hein.
Ah, ça, surtout. Moi, je pense que ce que j'ai appris de tout ça, c'est que des fois, c'est vrai qu'on peut pas changer le monde, mais on peut faire une Adèle Haenel. Ouais. Mon conseil,
alors,
c'est vraiment
voilà,
de faire une Adèle Haenel. Quand on ne peut pas faire changer les gens d'avis, on a le droit de dire la honte et de se casser. En tant que militante et militant, on n'a pas un devoir de convaincre et de prêcher la bonne parole tout le temps. Et on a le droit de dire « Vous m'avez saoulé, j'en ai rien à foutre, je me tire, quoi. Noël ou pas Noël. » Et puis, on a le droit aussi de se faire du bien avec des podcasts comme celui que tu as écouté ou en parlant à d'autres gens qui sont nos alliés, ce que je vais évoquer dans ma chronique.
Ouais, alors je voulais juste donner un tout petit conseil et après je lance ta chronique promis. Mais il y a pour celles et ceux qui ont vraiment besoin de faire du renfort avant les fêtes, il y a un super épisode des couilles sur la table justement sur les fêtes de fin d'année. Et donc pour celles et ceux pour qui c'est un peu compliqué, je leur conseillerais d'aller écouter celui-là. Donc vous allez sur Binge Audio ou YouTube, les couilles sur la table et vous regardez conseils pour les fêtes de fin d'année, un truc comme ça et c'est super bien.
Ouais,
mais c'est
aussi,
le moment de ta chronique, tu vois,
oh
je suis revenue
là.
À ton lancement.
Oui, c'est vrai, tu m'as
c'est la chronique féministe de Tiffen.
C'est parti.
Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux dans un monde d'égalité.
De la tristesse et de la colère. L'actualité du moment est tellement lourde et violente que j'ai l'impression d'osciller entre ces deux émotions en permanence, que ce soit sur des thématiques féministes ou pas d'ailleurs. Mais ici, je vous parle de féminisme. Alors, pour me sortir du duo tristesse-colère, j'ai qu'une solution, c'est le collectif, l'entraide militante, les discussions avec des alliés, et de pas tout le temps se confronter à l'opposition et au fascisme. De réfléchir ensemble sur ce qui nous plaît, nous touche, nous aide, nous intéresse, nous questionne, c'est le meilleur moyen que je peux vous proposer pour surmonter les drames de notre temps. Alors cette semaine, je suis allée demander à des femmes de me parler de ce qu'elles voulaient, de m'évoquer un sujet, un thème, une œuvre qui les a questionnées, intéressées, fascinées, et je leur laisse la parole.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série que j'ai vue, qui est d'actualité. C'est une série Netflix sur Monique Olivier. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée en regardant cette série, c'est le fait que nombreux parents de victimes et nombreuses personnes qui témoignent aujourd'hui s'insurgent de ce qu'elle a commis en disant « en tant que mère, c'est horrible », comme si le fait d'être mère rajoutait de la gravité à ce qu'elle a pu connaître. Alors il me semble que dans l'échelle de la monstruosité, mère ou pas mère, on est déjà quand même sur le très très haut, voire au plus haut de ce qu'il est possible d'imaginer. Et voilà, ça m'a interpellée. D'ailleurs, c'est un argument qu'utilise son avocat pour dire « mais arrêtez, jamais on renvoie Michel Fourniret à son statut de père pour accentuer la gravité des faits qu'il a commis. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Et donc, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'avec Monique Olivier, pourquoi avec les femmes, en fait, et leur statut de mère, il fallait sans arrêt la ramener à ça. Alors, évidemment que ça ne minimise pas l'immense peine que peuvent ressentir les familles de victimes, dont je pense que personne n'est capable de se rendre compte de ce que c'est. Mais est-ce que pour autant faire appel à sa maternité pour justifier de la gravité des faits est nécessaire? Je ne pense pas.
Une œuvre qui a modifié ma vision des relations hommes-femmes est sans doute « Mémoire d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir. Dans cette autobiographie, qui s'étend sur son enfance jusqu'au début de sa vie d'adulte, avec l'obtention de l'agrégation de philosophie, on a un portrait de ce qu'était être une femme dans la première moitié du XXe siècle. Et finalement, les choses ont certes évolué, mais moins que ce que l'on pourrait penser. Un élément qui m'a marqué, c'est sa relation à son père. La jeune Simone montre un goût prononcé pour l'étude et la littérature, et c'est d'abord quelque chose qui les lie. Puis, quand elle ne s'intéresse pas aux choses traditionnellement féminines, quand sa situation familiale et financière, car la Première Guerre mondiale a déclassé la famille de Beauvoir, la pousse à préparer un avenir professionnel, son père justifie ses études en disant « Simone est un homme, Simone a un cerveau d'homme ». Cette phrase reflète bien l'anomalie qu'elle représente et qu'il ne peut justifier qu'en attribuant ses compétences hors du commun à un attribut typiquement masculin.
Se questionner sur l'essence maternelle de la féminité, se rappeler de l'héritage beauvoirien et de ce qu'il a de précieux dans nos réflexions militantes, a priori ça n'a rien à voir, mais moi ça me fait du bien de vous écouter, de vous faire écouter ces personnes de mon entourage qui m'inspirent chaque jour. Alors je les remercie d'avoir participé, mais aujourd'hui dans ma chronique, je laisse la parole. Je laisse la parole, un peu par fatigue, mais aussi par tristesse et par colère, pour revenir à la rentrée déterminée et forte de puissance militante et sororale. Aujourd'hui, on légalise le racisme. Pour construire la riposte, je vous propose de vous imprégner de cette voix-là. De cette voix d'Angela Davis, militante américaine, noire, féministe, communiste et révolutionnaire.
Le fait d'être noir a un rapport avec la fuite. Pour comprendre ça, il faut que vous compreniez ce qui, dans l'histoire de ce pays, a fait une Angela Davis. Si vous l'acceptez, je vais vous demander dans les minutes qui vont suivre de penser noir avec moi, d'être noir. Ne vous inquiétez pas, une fois cette affaire terminée, je vous laisserai redevenir ce que vous êtes. Je vous laisserai retourner à la sécurité de ce que vous êtes. Je vous demande seulement d'être noir et de penser noir pendant les quelques minutes qu'il va me falloir pour vous expliquer ce que cela signifie d'être noir dans ce pays.
Angela Davis, être noir en 1978 aux États-Unis, ça signifie quoi?
Ça signifie qu'on est toujours victime du racisme, victime de l'injustice. Et je sais que le président des États-Unis essaye de nier le fait que le racisme ne s'est pas reculé pendant les dernières années, mais le racisme est peut-être même plus fort aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et aussi, la situation des Blancs n'est pas très bien aujourd'hui. Et c'est cela, je crois, la raison pourquoi on essaye d'encourager le racisme, parce que je crois que nous sommes dans une situation maintenant où les Blancs et les Noirs et tous les autres gens de couleur peuvent s'unifier. Et ceux qui ont le pouvoir ne le veulent pas. Alors ils encouragent le racisme pour que nous nous battions entre nous et ne pouvons pas créer un mouvement unifié.
On est là,
Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour une vie meilleure. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Là, on est là.
Ma petite gueule de fasciste
qu'on n'oubliera jamais.
Darmanin,
range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule.
Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Ta sale queue qu'on pourrait clouer sur ton cercueil. Ta sale gueule de laquelle on arracherait un œil.
Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Ta sale loi qu'on cramera, tes sales mains qu'on coupera, dont on gardera les doigts, que des tailles on vendra.
Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule. Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Ta langue trop bien pendue au micro de télé.
Darmanin,
range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule.
Ta petite gueule de fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Tes costards bien serrés, tes idées mal placées, ton désir de régner nous font bien rigoler.
Darmanin, range tes mains, range ta queue, ferme ta gueule.
Ferme ta gueule.
De fasciste qu'on n'oubliera jamais.
Darmanin, ton échine nous
servira de plancher
sur lequel on dansera
autour d'un feu de bois.
Darmanin, range tes mains, ferme ta gueule, c'est pas ça.
Ah, ça fait du bien.
Ouais, on l'avait déjà mise, mais là, ça semblait vraiment nécessaire de la remettre.
On pourrait la mettre toutes les semaines, en fait. Les semaines, on va mettre ça, non.
Moi, c'est ma sonnerie de téléphone. Voilà, je mets bien mon téléphone en silencieux en classe, c'est très important.
L'autre petite pépite que je voulais proposer aux auditeuristes, c'était Sambre, que j'ai découvert. Alors un peu, moi je l'ai découvert sur le replay parce qu'il est sorti au mois de novembre, mais je l'ai regardé cette série. C'est une série qui raconte l'histoire du violeur de la Sambre, donc c'est pas très rigolo. Mais c'est super bien fait. Et alors c'est une série réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, qui a déjà réalisé un film sur Laetitia Perret, qui avait été assassinée violemment par Tony Meillon en 2011. La série est sur Netflix, elle date de 2018. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il fait un travail quasi sociologique, en fait. Il interroge la société, en fait. Il a une vision systémique, en fait. C'est pas un fait divers qu'il va exploiter du côté sensationnel. Et après, il y a la profondeur du temps, parce que l'histoire du violeur de la Sambre, c'est...
C'est presque 30 ans, il me semble.
Ouais, c'est ça. C'est de 88 à 2018, donc c'est pile 30 ans. Hein. Et donc, il y a une playlist qui nous dit à quel moment on est. Et on prend conscience à travers ces chansons, en fait. Ça commence avec En rouge et noir, et ça termine par comment elle s'appelle, Angèle. Et on prend conscience, en fait, de mais putain, il est toujours en liberté. Enfin, c'est énorme comme écart de temps, en fait. Et voilà, c'est très juste, c'est très voilà. On va écouter un extrait, peut-être.
On a affaire à un des plus gros prédateurs sexuels que la France ait connu.
C'est librement inspiré d'un fait divers qui s'est déroulé sur 30 ans, de 1988 à 2018, où un homme a attaqué très violemment et violé des femmes sur un tout petit périmètre. Et il y a eu un nombre considérable de victimes, et sans jamais être vraiment inquiété pendant 30 ans, en fait.
Vous voulez mon avis, Madame Labo? Vous avez eu de la chance.
On va suivre l'évolution d'une des premières victimes qui a subi le viol de cette personne et le violeur. Et donc c'est l'évolution de ces deux personnages-là sur 30 ans et des acteurs aussi qui vont jouer un rôle dans la possibilité d'approcher une arrestation de cette personne.
Aujourd'hui, notre violeur n'est plus un parfait inconnu. On a un ADN, on a un portrait robot. On sait qu'il agit toujours dans le même créneau horaire et sur la même route, en gros le long de la Sambre.
Cette histoire, elle vaut le coup d'être racontée parce que on a un violeur qui est parmi nous et qui est visible par tous. Donc, dans la série, il fallait qu'il soit visible immédiatement. C'est une manière pour le spectateur de dire, ben, en fait, ce gars-là, c'est mon voisin, c'est le meilleur ami de mes amis, c'est quelqu'un que je connais. qui vit autour de moi.
Si c'était un type tout à fait normal, peut-être un père de famille. Un type passe-partout, en fait. Possible, ça?
En fait, ça dépasse le fait divers pour raconter sur 6 épisodes à quel point, en fait, tout ça est un fait de société. C'est-à-dire à quel point toute cette minimisation qu'il peut y avoir sur le viol nous concerne tous.
Après, faut savoir que malheureusement, des viols, il y en a partout. Et ça veut pas dire forcément que c'est le même individu à chaque fois.
Bon, messieurs, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un pervers qui a violé au moins 3 femmes sur ma commune. Et que si on l'arrête pas, il y aura d'autres victimes.
Quasiment chaque phrase qui est prononcée dans cette série a des éléments qui permettent que ce genre d'histoire en fait continue d'exister. Il y a la justice, il y a la police, mais il y a aussi le foyer.
Mais t'es gonflé, c'est toi qui me fuis. Et après tu me reproches ça de plus m'intéresser à toi?
On est tous responsables et on a tous un rôle à jouer en fait dans le fait que c'est quelque chose qui a pu être possible sur des années et des années.
Vous voulez déposer plainte?
Vous êtes sérieux là? Vous croyez que je suis là pour quoi?
Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection et vous venez d'écouter un extrait avec des commentaires d'ailleurs de Sambre, donc la série dont on parlait juste avant et qu'on vous conseille. On arrive à la fin de l'émission. Tiffaine, t'avais 2-3 rendez-vous militants à rappeler.
Oui, 2-3 rendez-vous militants à rappeler. Donc samedi à 14h, donc samedi 23 décembre à 14h au départ de la place de la République. Pour une manifestation de solidarité avec la Palestine, la manifestation est suivie d'une réunion publique à laquelle vous pouvez assister pour organiser et continuer d'organiser notre lutte et notre soutien à la Palestine. Et puis le mardi 26 décembre à la salle Jean Carnet à Alonne, à partir de 18h, le collectif organise une soirée de solidarité avec des témoignages, des projections de films, un concert, des danses et un repas, ou une collation plutôt.
Voilà, et le 13 janvier, il y aura Les Inspirantes, on sera présents, il y aura une émission en direct des Quinconces. En attendant, bonne fin d'année à 2024, enfin à l'année prochaine, et continuez à militer, à vous reposer et à militer surtout.
Salut Bertrand.